Chapitre 33. Il y avait juste 8 jours que Raphaël était installé dans son appartement du boulevard Haussmann, lorsqu'un matin, en rentrant chez lui, Roger trouva son bijoutier qui l'attendait. « C'est de l'argent que vous venez chercher, » dit-il. « Je suis fâché d'avoir à vous répondre qu'en ce moment je n'en ai point. » « Non, monsieur le duc, ce n'est point de l'argent que je viens vous demander. » Et il resta un moment assez embarrassé, cherchant évidemment ce qu'il voulait dire et ne le trouvant pas. « Alors ?» demanda Roger à ses aînés. « Monsieur le duc, m'avez-vous fait demander votre facture ?»«
Pas du tout. Pourquoi faire aurais-je demandé cette facture ? Je n'ai pas d'argent à vous donner. »
Avant-hier, comme j'étais absent, un monsieur, une espèce d'homme d'affaires, portant une serviette noire sous le bras avec des papiers dedans, s'est présenté chez moi comme venant de votre part.
De ma part ?
Au moins, il l'a dit. Il s'est adressé à ma femme et lui a demandé un relevé de votre facture. Ma femme a répondu que ce relevé n'était pas fait et qu'on vous l'enverrait. Il s'est montré si pressant que ma femme s'est décidée à la fin à faire ce relevé de compte. Le soir, lorsque je suis rentré, ma femme m'a raconté la visite de ce personnage qui, par ses allures comme par ses paroles, avait produit sur elle une mauvaise impression, assez mauvaise même, pour qu'elle eût conscience d'avoir commis une faute en lui remettant cette facture. Bien entendu, je la confirmais dans cette crainte, car tout cela me paraissait louche. Ce ne fut point un reproche que Roger adressa au bijoutier, ce fut un remerciement. « Je vous suis reconnaissant, dit-il, de l'empressement que vous avez mis à me prévenir. Il y a là-dedans un mystère que je vais tâcher d'éclaircir. Si monsieur le duc veut bien passer à la maison, ma femme lui donnera le signalement exact de cet homme d'affaires. Rasé, voûté, trop poli. » Mais Roger avait pour le moment autre chose à faire que de s'inquiéter de cet homme qui, bien certainement, n'était qu'un agent, un instrument, aux mains de quelqu'un qu'il avait mis en avant, se tenant prudemment dans la coulisse. Ce quelqu'un, il n'y avait pas à le chercher. Le doute, l'hésitation n'étaient pas possibles pour lui. C'était M. de Condrieu qui poursuivait son procès de conseil judiciaire et qui, avant de formuler sa demande devant la justice, s'entourait de tous les documents propres à l'appuyer et à la faire triompher. Vivement, Roger se fit conduire chez son tapissier qui, pour avoir meublé Saint-Prix et l'appartement du boulevard Haussmann, était un de ses plus gros créanciers. En le voyant entrer dans son magasin, le tapissier vint au-devant de lui en souriant. « Oh, monsieur le duc, il ne fallait pas vous presser, j'aurais attendu. » Chez le marchand de chevaux, chez le carrossier, chez le couturier Faugerolles, ce fut la même réponse. Un homme d'affaires était venu demander les mémoires de la part de monsieur le duc qui partait en voyage. De tous ses créanciers, le plus important était Carban. Il courut chez Carban, qu'il trouva en train de déjeuner, enveloppé comme toujours dans un nuage de fumée de viande grillée qui emplissait et infectait la salle. « Si on est venu me demander ce que vous me devez ?»«
Oui, monsieur le duc, mais vous pensez bien que je n'ai pas été assez naïf pour le dire. »
Roger respira. « On ne fait pas causer l'ami Carban. C'est lui qui fait causer les autres quand ça l'intéresse. »
« Alors ?»«
Alors, monsieur le duc, on veut vous pourvoir d'un conseil judiciaire, et pour cela on cherche à ramasser toutes vos dettes. C'est clair, clair comme de l'eau de roche. » Au reste, ce que je vous dis là, je l'ai déjà dit à celui qui a voulu me tirer les vers du nez. Mais je n'ai pas parlé. D'abord, parce que vous êtes mon client et que ce n'est pas à moi à compter vos affaires. Ensuite, parce que je n'aime pas qu'on ait le toupet de vouloir me tirer les vers du nez. Mais vous devez bien penser que cela n'empêche pas votre famille de savoir le plus gros de ce que vous me devez, à moi ou à mes amis. Pour cela, elle n'a eu qu'à lever un état des inscriptions qui grève vos propriétés. Aussi, quoi que je dise ou ne dise pas, je crois bien que vous ne pourrez pas lutter contre votre famille. Vous avez été un peu trop vite, monsieur le duc, un peu trop vite. À votre place, moi, je m'arrangerai avec elle et j'accepterai le conseil judiciaire de bonne volonté.
Roger se leva brusquement.
Vous êtes jeune, monsieur le duc, vous vous laissez entraîner facilement.
Un conseil judiciaire ne vous serait peut-être pas mauvais pendant 3 ou 4 ans. Songez donc comme c'est commode de ne pas pouvoir s'engager légalement. La signature ne valant pas mieux que la parole, c'est à considérer. « Merci, » dit Roger, qui s'était dirigé vers la porte. L'enquête était plus que suffisante, il était inutile de la pousser plus loin. Quand il irait chez tous ses fournisseurs les uns après les autres, à quoi bon? Partout, sans doute, on lui ferait la même réponse. « Nous avons remis notre facture parce qu'on est venu nous la demander de la part de Monsieur le Duc. » Mais s'il n'avait rien à apprendre de ceux qui avaient remis ses factures, il n'en était pas de même vis-à-vis de celui qui les avait fait demander, c'est-à-dire vis-à-vis de M. de Condrieu-Revel. Sorti de chez Carban, il était resté un moment sur le trottoir, ne sachant de quel côté tourner, irrésolu, sans idée. Il se dirigea vers la place de la Bourse et, montant dans une voiture, il dit au cocher de le conduire rue de Lille. Qu'allait-il dire à son grand-père? Il n'en savait rien. Mais il verrait ce que les circonstances lui inspireraient. Pour que cette demande du conseil judiciaire ne fût pas déposée, il était prêt à tout. Comme il traversait la cour de l'hôtel, il se trouva en face de son cousin, Ludovic de Condrieu, qui, une serviette de maroquin sous le bras, descendait le perron, se rendant sans doute à l'école de droit. Les deux cousins s'aperçurent en même temps, et chez tous les deux, instantanément, il y eut un mouvement d'arrêt. Mais Roger se remit le premier et tendit la main à son cousin, qui, ses longs bras collés contre son corps, gardait une contenance embarrassée. « J'ai un service à te demander, » dit Roger. « Toi ? On veut me faire nommer un conseil judiciaire. Je viens demander à notre grand-père, de ne pas persister dans cette mesure. J'ai des raisons à faire valoir, de bonnes raisons. Entre avec moi, tu m'entendras les expliquer, tu les appuieras. Ton grand-père t'écoute. S'il ne se laisse pas toucher par moi, il aura égard à tes paroles. Veux-tu ? » Cela fut dit franchement, les yeux levés, dans un élan instinctif. Mais cela fut écouté avec les yeux baissés, les bras ballants, avec une gêne visible. Cependant, comme il fallait bien répondre, Ludovic, à la fin, se décida en balbutiant comme M. de Condrieu. « Tu sais, dit-il, que notre grand-père ne permet pas qu'on intervienne dans ses affaires. »«
Ce ne sont pas ses affaires, ce sont les miennes. » »«
Vraiment, je n'oserais pas. Et puis, je suis déjà en retard. Il faut que j'aille à l'école. Au revoir. »
Puis, s'arrêtant et se retournant,
« Si tu as de bonnes raisons à faire valoir, sois sûr que grand-père les écoutera. C'est la justice même. » Roger revint au perron. Dans le vestibule, il trouva un valet qui l'introduisit dans le grand salon, celui où se trouvait le portrait de la duchesse de Condrieu. Le comte n'était pas là. Roger dut attendre quelques instants. Enfin, M. de Condrieu arriva, traînant les pieds, la taille voûtée, la tête engoncée dans les épaules, digne et paterne tout à la fois. Pendant quelques instants, le grand-père et le petit-fils restèrent en face l'un de l'autre. Mais tandis que le duc de Nauruse tenait ses yeux levés sur le comte de Condrieu, celui-ci regardait de tous côtés, rapidement, sans s'arrêter, sans se fixer, comme s'il n'était pas chez lui. Ce fut Roger qui, le premier, prit la parole. « Monsieur le comte, dit-il, la gorge serrée par l'émotion, je vous demande la permission de vous adresser une question. » « Vous ? Je vous prie de passer sur les raisons de convenance, la gravité de la question que j'ai à vous poser l'exige. » « Alors, parlez. On me dit que vous voulez me faire nommer un conseil judiciaire. Est-ce vrai ?» Le comte s'était assis lourdement, les yeux baissés. Il ne les releva point. « Ce qu'on vous a dit n'est pas exact, » répondit-il. « Ah ! En ce sens que ce n'est pas moi, c'est votre conseil de famille qui doit devoir, dans votre intérêt, recourir à cette mesure préservatrice. La distinction a peu d'importance. Je vous demande pardon, elle a une importance considérable, considérable pour moi, qui tient à marquer nettement les situations. J'ai été opposé à cette mesure. Ceux de nos parents qui composent votre conseil de famille pourront vous le dire. Ils vous le diront certainement si vous les interrogez. Roger resta un moment décontenancé. Il connaissait bien cette manière de se défendre habituelle à son grand-père. Mais malgré l'envie qu'il en avait, il ne pouvait pas dire à celui-ci que cette explication était mensongère et que c'était lui, lui seul, qui avait préparé et poursuivi l'exécution de cette mesure. Il était venu rue de Lille pour arranger les choses, non pour les exaspérer. « Je suis heureux, dit-il, d'avoir à vous remercier du concours que vous avez bien voulu me prêter, et puisqu'il en est ainsi, n'en doutez pas. Je viens vous prier de me le continuer. Ce conseil de famille, le mien, dont je ne connais pas la plupart des membres, je suis sans influence sur lui, et même il me paraît bien sévère pour moi. Tandis que vous, monsieur le comte, par votre position, par votre autorité, vous pouvez sans doute beaucoup sur lui. Eh bien, je viens vous prier d'user de cette autorité pour le faire revenir sur cette mesure. Mais je sais tout ce qu'on peut dire sur les dépenses auxquelles je me suis laissé entraîner, et les reproches qu'on peut m'adresser à ce sujet sont en partie fondés. En partie ? En partie, car pour être juste, il faudrait entendre les explications que j'ai à donner pour faire comprendre comment j'ai subi cet entraînement, dans quelles conditions particulières j'étais placé, comment il m'était plus qu'à tout autre difficile d'y résister. Mais je passe condamnation sur ces points. J'ai été coupable, je le reconnais. Ce que je veux, ce n'est point faire innocenter le passé, c'est offrir des garanties pour le présent, pour l'avenir. Ces garanties, je les donnerai aussi grandes, aussi complètes qu'on voudra. Mon revenu est d'environ 500 000 francs. Sur ces 500 000 francs, on en prendra 400 000, plus s'il le faut, pour éteindre mes dettes, et cela pendant tout le temps nécessaire à cette extinction. Vous voyez que ce que j'ai en vue n'est point un intérêt d'argent. Je ne viens pas défendre mes revenus, puisque je les abandonne. Je viens défendre mon honneur, le nom de mon père, mon nom, sur lequel je ne veux pas que, par ma faute, jaillisse une tache. Voilà ce que je vous prie de présenter à mon conseil de famille pour qu'il ne prenne pas cette mesure. Mais elle est prise. Eh bien alors, pour qu'il revienne sur sa résolution, ce qu'il consentira à faire, j'en suis sûr, si vous, vous voulez bien plaider ma cause en insistant sur les engagements que je suis prêt à prendre. Et quelle garantie offrez-vous que ces engagements seront tenus ? Roger leva la tête fièrement et, en posant la main sur son cœur, « Ma parole, » dit-il d'une voix vibrante. « Oui, oui, sans doute, mais on pourra m'objecter que vous êtes jeune et que vous paraissez disposé à céder facilement à des entraînements pour vous irrésistibles. » Si jeune que je sois, je sais la valeur d'un engagement pris librement. D'ailleurs, toutes les garanties légales, s'il en existe, ce que j'ignore, je les donnerai. Tout, je suis prêt à tout pour ne pas subir ce conseil judiciaire, et je vous demande en grâce de me l'épargner. Si je ne porte pas votre nom, monsieur le comte, je suis au moins le fils de votre fille. Sans doute, interrompit vivement monsieur de Condrieu. Eh bien, j'évoque le nom et le souvenir de ma mère pour que vous évitiez cette flétrissure à son fils. » Monsieur de Condrieu parut ému et, par un geste qui lui était familier, lentement, du bout de son doigt, il parut vouloir sécher une larme qui se serait arrêtée dans les rides qui plissaient ses joues. « Voilà, dit-il, des paroles qui me remuent doucement le cœur, sa voix tremblota, et qui en rachètent d'autres dont je ne veux plus garder le souvenir. » Elles n'auront point été prononcées en vain. Et ce n'est point en vain que vous aurez fait appel à mon... à ma tendresse, à ma tendresse. Quand votre conseil de famille verra que de vous-même vous êtes disposé à prendre les arrangements qu'il voulait arriver à vous imposer, je suis convaincu qu'il ne persistera pas dans cette demande de conseil judiciaire. Que voulions-nous ? Je veux dire, que voulait-il ? Une seule chose, vous protéger contre vous-même et sauver votre fortune pour que vous la trouviez intacte le jour où vous serez d'âge à en faire l'usage qui convient à votre nom et à votre rang. Oui, je plaiderai votre cause, je la plaiderai et la ferai triompher. Puis, tout à coup, se frappant le front comme un homme qui vient d'être illuminé, « Je veux la plaider tout de suite, dit-il, devant vous, c'est-à-dire que je veux que vous m'accompagniez chez les membres de votre conseil de famille, au moins chez quelques-uns, les plus influents, et là, devant vous, je répéterai, j'appuierai les paroles, les nobles paroles que vous venez de prononcer. J'allais me rendre au Sénat, la voiture est attelée, partons. »